I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Thomas Rozek. Aujourd'hui, on est dans la même situation que sont un certain nombre de services publics. En premier lieu, on pense bien sûr aux hôpitaux, c'est-à-dire de ne plus avoir la capacité de faire fonctionner nos services.
Vous aurez constaté, si vous l'écoutez régulièrement, que dans ce podcast, on aime bien vous raconter comment et par quel chemin les sujets que nous traitons nous arrivent. Celui du jour, il a une histoire très singulière, puisqu'il nous est venu alors qu'on cherchait à en traiter un autre qui n'avait rien à voir. On avait une ébauche de questionnements sur un grand thème de l'époque, la gentrification. Et comme on le fait souvent dans ces cas-là, on s'est tourné vers le monde de la recherche, les universitaires qui sont des habitués ici et chez Binge Audio en général. Et la surprise, on a reçu coup sur coup à peu près la même réponse.
Bonjour, je vous remercie pour votre mail, mais étant investi dans la mobilisation en cours, je n'aurai pas du tout le temps de vous répondre.
Car oui, parmi les corps sociaux où la lutte contre les projets gouvernementaux sur les retraites, entre autres, dure, voire s'intensifie, l'université est en première ligne. Il faut dire qu'elle fait face à une crise qui dure. Ces dernières années, elle a vu le nombre d'étudiants augmenter et le nombre de postes mis au concours diminuer. Par exemple, chez les maîtres et maîtresses de conférences, moins 40% entre 2012 et 2018. Les 750 signataires de l'appel à la grève publié tout début février l'assurent. Ils n'en peuvent plus. Alors on a eu envie d'en savoir plus, de comprendre comment on en est arrivé là, et de se poser aussi cette question. Ça donnerait quoi un espace public où la parole des chercheurs aurait disparu? Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans Programme B. Nos invités avec un S, car elles sont deux, c'est d'un côté Marie Sonnette, maîtresse de conférences en sociologie à l'université d'Angers, et Myriam, c'est pas son vrai prénom, on l'a anonymisé à sa demande, elle est docteur sans poste, titulaire d'un doctorat en sociologie également, mais précaire. J'ai commencé par leur demander de nous détailler les motivations de ce mouvement, et c'est Marie qui répond en premier.
De manière générale, déjà, c'est la question de la réforme des retraites, parce que les chercheurs vivent dans le même monde social qui aujourd'hui est très clairement attaqué par un gouvernement qui est en train de détruire patiemment l'ensemble de nos droits sociaux. Et en fait, on est particulièrement touché par cette réforme des retraites et par d'autres réformes générales. Je vais expliquer. La réforme des retraites, déjà, parce que nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, on rentre dans le monde du travail extrêmement tard. C'est-à-dire que la moyenne de recrutement, elle est à 34 ans aujourd'hui pour devenir maître de conférence ou pour devenir chargé de recherche, avec la question de la précarité qu'on expliquera plus tard, qui fait que l'entrée en poste est de plus en plus tard, donc forcément ça va énormément jouer sur nos retraites. Et donc aujourd'hui, moi, on me promet, quand je fais le calcul, une retraite vers 70 ans à 1100 euros par mois. Ce qui fait extrêmement rêver, bien sûr.
Bien sûr.
Donc du coup, ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui nous fait rentrer dans le mouvement, qui est aussi quelque chose qui touche l'ensemble des chercheurs, c'est la réforme du chômage, qui est extrêmement gravissime, justement, pour tous ces personnels précaires qui comptent énormément sur le chômage pour arriver à joindre les deux bouts, etc. Et donc là, on va pas rentrer de manière technique, mais globalement, avec cette réforme, ils toucheront que des cacahuètes lorsqu'ils essaieront de joindre les deux bouts de contrat, parce que nous, on a un système officieux qui est celui de l'intermittence de la recherche, qui fait que on a un petit contrat, c'est le chômage qui nous permet de joindre les deux bouts et donc de finir ce contrat, de le rédiger, et derrière, pendant qu'on est au chômage, ça nous permet de reprendre un autre contrat, etc. Mais ça, aujourd'hui, avec la réforme du chômage, vu que ce sera plus simplement calculé sur les mois où on a travaillé, mais aussi sur les mois de non-activité, dites de non-activité, forcément, ça viendra baisser très largement les droits au chômage des chercheurs les plus précaires. Et enfin, bien sûr, donc j'en arrive aux questions qui nous concernent directement. Ça a été depuis un certain nombre d'années, eh bien, une destruction en règle du service public de l'enseignement et de la recherche avec une université ouverte à toutes et tous, notamment cette dernière année avec Parcoursup, donc le fait d'introduire le principe de sélection pour les étudiants alors qu'on défend un service public de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire le fait que n'importe quel étudiant qui a son bac peut rentrer à l'université, étudier la discipline qu'il souhaite et faire lui-même sa propre expérience. La Parcoursup ne permet plus ça, et notamment avec des logiques de discrimination géographique, avec les étudiants de banlieue, les lycéens de banlieue qui ne peuvent pas venir sur Paris, ce genre de choses qui sont extrêmement graves pour nous. La question de l'augmentation des frais d'inscription. Mmh. Pour les étudiants étrangers, ce qui est une discrimination d'origine nationale absolument catastrophique pour nous, encore une fois, dans cette optique d'université ouverte à toutes et tous, mais aussi qui préfigure le fait que commence à être discuté le fait que l'université doit être financée par ses usagers, donc finalement plus un service public, c'est-à-dire un service public, il est financé par les impôts, c'est-à-dire que les plus riches payent plus que les plus pauvres et permettent à tout le monde d'aller à l'université. Aujourd'hui, on est en train de nous dire va y avoir des diplômes qui vont coûter 4 000 euros, 5 000 euros, et donc d'avoir un système à l'américaine où les étudiants doivent prendre des prêts pour faire des études, sachant que la situation des étudiants est extrêmement préoccupante, hein, et on l'a vu en novembre avec l'immolation d'un étudiant qui nous a tous touchés, parce que ça nous rappelle la situation de tous nos étudiants qui subissent une précarité indescriptible, avec des conditions de vie extrêmement difficiles, et là où en plus on est en train de leur dire, ben en plus vous allez devoir payer. Donc il y a tout ça. Et par-dessus tout ça, notre ministre nous rajoute depuis un an, un truc qui s'appelle la LPPR, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, et nous dit, ben en fait, non seulement, alors vous allez avoir plus d'argent, mais ce plus d'argent, il ne sera pas pour tout le monde. Il sera seulement pour ceux qui vont réussir à écraser les autres et être davantage en concurrence et donc être extrêmement forts. Eux, ils auront plus d'argent. Les autres, par contre, va falloir juste travailler plus. Et notamment, travailler plus, ça veut vouloir dire enseigner davantage, faire ce qu'on estime être les basses tâches. Et donc ça, c'est Emmanuel Macron qui l'annonce en disant va y avoir plus d'évaluations. Ceux qui les réussiront auront plus d'argent. Ceux qui les rateront en auront moins. Et Antoine Petit, le PDG du CNRS, donc le Centre National de la Recherche, qui est un des établissements principaux recruteurs de chercheurs et producteurs du coup de recherche en France, qui nous dit cette loi elle doit être inégalitaire et darwinienne. Il écrit une tribune, c'est-à-dire c'est pas un mot qui lui échappe, c'est parce que maintenant il essaie de dire oulala, c'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est une tribune qu'il publie dans Les Échos en utilisant ces mots-là, donc en reprenant une rhétorique qui nous semble extrêmement dangereuse du darwinisme social, c'est-à-dire une loi de la jungle, c'est-à-dire ceux qui y arriveront auront plus d'argent et les autres non. Et donc ça, pour nous, c'est extrêmement grave parce que aujourd'hui, nous, ce qu'on demande depuis au moins une vingtaine d'années, c'est d'avoir plus de collègues, parce qu'aujourd'hui, on rentrera dans le détail des chiffres, les établissements fonctionnent de plus en plus et presque majoritairement sur des enseignants vacataires, et on demande plus de moyens pour faire de la recherche sur un temps long. C'est-à-dire que faire de la recherche uniquement par projet, comme on est en train de nous le proposer, comme la LPPR nous le propose encore plus, c'est-à-dire on se bat pour avoir de l'argent, si on a de l'argent, on arrive à sortir nos recherches et ça dure 2 ans, 3 ans, on sait que c'est inefficace. C'est-à-dire qu'on sait que on est tout le temps en train de courir après de l'argent, on n'arrive pas à faire vraiment nos recherches parce que dès qu'on a cet argent, on l'utilise finalement à redemander d'autres enveloppes, etc. Donc on n'arrive pas à les faire, etc. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est une pérennisation des moyens. Faire qu'on ait des moyens pour fonctionner, pour pouvoir sortir nos recherches en ayant le temps de les faire, etc. etc. Il y a des chiffres qui sont sortis, là c'est le Time Education qui sortait ces chiffres-là la semaine dernière ou le mois dernier, en disant que sur des gros appels à projets européens, il y en a un qui s'appelle Horizon 2020, sur lequel on est très nombreux à avoir postulé, à avoir mis beaucoup d'énergie à postuler pour obtenir de l'argent de la part de l'Union européenne. En fait, les laboratoires européens ont perdu 1,4 milliard d'euros. C'est-à-dire que l'argent qui a été mis pour répondre à ces appels à projets sans les avoir, ça représente 1,4 milliard d'euros. On imagine ce qu'on aurait pu faire, notamment en sciences sociales, avec cet argent-là, ça nous aurait permis largement de fonctionner et de sortir nos recherches.
L'un des mots qui revient le plus souvent dans ce qu'on vient de se dire là, c'est précarité, précarisation. Peut-être, Myriam, vous êtes directement concernée en tant que docteur précaire. Vous pouvez nous expliquer concrètement quelle forme ça prend, cette précarisation, vous, dans votre quotidien ?
C'est vrai qu'en plus de tout ce que vient d'être dit, la recherche et l'université et l'enseignement reposent très largement sur de la précarité depuis de nombreuses années, mais de plus en plus. Et cette précarité, bon, on parle tout le temps de précarité, mais il faut aussi imaginer que précarité, ça va avec concurrence. Parce que du coup, l'absence de moyens, cette économie de la pénurie, elle va aussi avec une espèce de guerre permanente à tous les échelles pour obtenir les moyens. Cette précarité, moi, il me semble qu'elle nous touche vraiment à tous les échelons. Donc, on a parlé un peu de la précarité des étudiants et étudiantes, qui mène quand même à des extrémités dramatiques. Et cette précarité, du coup, bah, voilà, elle est aussi chez les doctorants et les doctorantes, dont en sciences humaines et sociales, il n'y a que 39% des doctorants et doctorantes qui touchent un financement. Donc, tous les autres sont sans financement, principalement financés par Pôle emploi, qui est quand même l'un des grands financeurs de la recherche publique française. Donc, de nouveau, on imagine les conséquences que va avoir la réforme de l'assurance chômage sur ces doctorants et doctorantes. Qui, en plus, travaille... il y a aussi toute cette question de la course à finir sa thèse le plus vite possible, malgré une augmentation des tâches constantes, la nécessité de publier dans des revues de plus en plus concurrentielles, de monter des séminaires, de faire tout un travail de fourmi complètement invisible. Et en plus de ces précaires doctorants et doctorantes, il y a tout un tas de précaires sans poste ou de ce que nous on nomme souvent les docteurs sans poste, parmi lesquels un grand nombre de vacataires de l'enseignement. Alors les vacataires, ils peuvent être à tous les échelles. Ça peut être des doctorants, ça peut être aussi des extérieurs. C'est quand même très largement des docteurs sans poste. Les vacataires de l'enseignement, on est sur une situation qui est complètement, complètement folle depuis un moment déjà. En gros, on estime qu'il y a 130 000 vacataires de l'enseignement par an dans nos établissements d'enseignement, dont 17 000 ont au moins la charge d'un mi-temps de MCF, de maître de conférence. Donc ça veut dire qu'il nous manque un nombre de postes incroyable. Ces vacataires de l'enseignement n'ont pas de statut au sein de l'établissement. Ils sont payés plus ou moins à la tâche, légèrement en dessous du SMIC, et ils sont payés en une ou deux fois par an, donc généralement à la fin du semestre, voire six mois après la fin du semestre, quand ils et elles sont payés, puisqu'il y a encore énormément de cas où ils ne sont pas payés. Ils n'ont aucune protection sociale, la plupart du temps pas de contrat. Et donc, pour certains, c'est des statuts d'auto-entrepreneurs. Voilà. Moi, dans mon département de sociologie, on estime donc il y a 1900 heures qui sont données par des vacataires. Donc, par des vacataires, c'est-à-dire ni par des doctorants contractuels, ni par des ATER, donc qui sont les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, ni par des titulaires de la fonction publique. Ça veut dire qu'il nous manque concrètement, sur un département de sociologie, 10 postes de titulaires à temps plein. Et à tout ça s'ajoutent les très nombreuses et nombreuses docteurs sans poste, donc qui n'ont pas de statut, qui ont un doctorat. Pour certains et certaines, ça veut dire aussi plus de visa. Quand ce sont des étudiants étrangers qui ont fait leur thèse en France, il n'y a pas d'autre choix que de repartir, ce qui est quand même complètement absurde quand on pense qu'on les a formés sur un doctorat. Et à ça s'ajoute aussi une précarité dont on parle assez peu, mais qui est quand même hyper importante, c'est la précarité de tout le personnel technique et administratif dans les universités. Donc on estime qu'un quart de ces personnels ne sont pas titulaires et qu'entre 2008 et 2016, on a perdu quasiment 50% des postes. Donc c'est quand même assez dramatique, en gros à tous les échelons. Quoi.
Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? J'imagine qu'il n'y a pas une réponse simple, claire et précise là-dessus, que c'est une situation qui s'est aggravée qui est au fil des années, mais est-ce qu'on a une voie, un début de réponse au moins ?
Alors tout ça, ça rentre dans les années 90 avec un processus qu'on a appelé le processus de Bologne et qui a commencé à faire rentrer une vision plus libérale de l'université. Avec notamment, alors sous prétexte d'européanisation de l'université, ça a été la première réforme assez forte là-dessus. Ça a été en 2003 avec la réforme du LMD, donc licence, master, doctorat. Donc on a cassé un certain nombre de nos diplômes, notamment on avait deux diplômes intermédiaires qui étaient le DUG et la maîtrise, qui permettaient notamment aux étudiants finalement en deux ans, puis de pas forcément devoir faire trois ans direct, puis ensuite deux ans direct pour valider
valider des diplômes, mais d'avoir des diplômes intermédiaires qui, là, ont été cassés. Et donc, depuis, on entre de plus en plus, notamment avec une loi menée par Valérie Pécresse à la fin des années 2000, la loi LRU, dans l'idée de l'autonomisation des universités, donc de faire que chaque université doit être responsable de sa masse salariale, de son budget, de l'ouverture de ses diplômes, etc. Donc finalement, ça a été encore plus la mise en concurrence des universités elles-mêmes entre elles, avec le développement de facs qu'on va appeler les facs poubelles d'un côté et les facs d'élite de l'autre, donc des facs très bien dotés, avec des diplômes qui vont valoir beaucoup, etc., et des facs beaucoup moins dotés. C'est-à-dire que si on regarde une licence de sociologie aujourd'hui, si on l'a fait à Nanterre avec Meriem comme enseignante, ou si on l'a fait à Brest, je donne des exemples vraiment au hasard, avec d'autres types d'enseignants, etc., je ne sais pas pour l'université de Brest, mais je peux imaginer que c'est une...
Qui est mon université d'origine. Voilà. Donc on tombe très juste.
Mais je peux imaginer que c'est une université plus petite qu'une université parisienne, avec moins de moyens. Eh bien, on ne va pas avoir le même nombre d'heures, par exemple. On peut avoir des nombres d'heures très différents. On ne va pas avoir le même type d'enseignants à Nanterre. On pourra peut-être avoir plus d'enseignants titulaires, donc mieux formés, etc. Tandis qu'à Brest, on aura plus d'enseignants vacataires qui préparent les cours avec deux bouts de ficelle, etc. Donc, effectivement, des diplômes qui, de fait, à un moment donné, ne valent pas la même chose. Avec Parcoursup, avec la réforme aujourd'hui du bac et les E3C dont on entend beaucoup parler dans l'enseignement secondaire, etc., on voit vraiment qu'on tente de développer des parcours qui vont être des parcours d'excellence, tandis que d'autres lycéens puis étudiants auront des parcours beaucoup moins d'excellence et beaucoup plus difficiles, avec beaucoup plus de sélection. Et donc, eh bien, en fonction du bac qu'on aura choisi, et de toutes les combinaisons d'options et de la note de E3C qu'on aura fait, si on l'a fait dans un bon lycée ou pas, on pourra être bien classé sur Parcoursup et donc aller dans une bonne université, au hasard la Sorbonne. Et si on a mal fait ça, et si on a eu la malchance de naître à Aubervilliers, où j'habite, plutôt que dans le centre parisien, eh bien, on ira dans une université où le diplôme vaut moins. Et ça, on trouve que c'est une rupture du service public, c'est-à-dire c'est une rupture du principe d'égalité du service public, et c'est contre ça qu'on se bat. Aujourd'hui, on est dans la même situation que sont un certain nombre de services publics. En premier lieu, on pense bien sûr aux hôpitaux, c'est-à-dire de ne plus avoir la capacité de faire fonctionner nos services. Et de le faire uniquement à base de burn-out, c'est-à-dire de quelques titulaires qui sont en place, qui se disent c'est trop important, mes étudiants j'y tiens, du coup je fais masse d'heures supplémentaires sans être payé, etc., etc. À base de précaires qui se disent, moi comme je veux avoir un poste, eh ben, je vais m'accrocher et je vais pas dire non, et si on me demande de venir corriger des copies, surveiller des partiels alors que c'est pas dans mon contrat, je suis pas payé pour, je le fais parce que je veux être bien vu. Mais tout ça, au final, on n'est même pas sûr que ces précaires auront un poste. Et en fait, on fait circuler quelque chose qui marche sur la tête et qui ne va plus fonctionner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est on ne veut plus faire fonctionner ce système-là. On refuse à partir de maintenant, et notamment on a donné la date du 5 mars comme le début d'une date où on va dire l'université et la recherche s'arrêtent. On veut s'arrêter parce qu'on ne veut plus faire fonctionner ce système qui exploite, alors c'est 130 000 vacataires, comme le disait Meriem à l'instant, on ne veut plus cautionner ce système qui fonctionne sur le fait que 130 000 personnes sont payées en dessous du SMIC, du taux horaire du SMIC, pour être face aux étudiants et faire fonctionner les formations notamment.
L'une des corollaires de ce mouvement, et nous le point de départ de notre réflexion, c'est le fait qu'on ait reçu beaucoup de réponses, comme nous on sollicite énormément d'universitaires et de chercheurs dans nos émissions, on a reçu beaucoup de réponses ces derniers temps nous disant « je suis désolé, le sujet m'intéresse, c'est évidemment au cœur de mes recherches, mais je n'interviendrai pas car je suis actuellement en grève ou impliqué dans le mouvement de grève et donc je limite mes prises de parole ». Est-ce que c'est un des leviers d'action de montrer ce que serait un espace public, de parole publique, sans la parole des universitaires, des scientifiques, des chercheurs?
Exactement. Enfin, moi, votre message, il m'a fait hyper plaisir quand vous m'avez expliqué ça pour nous inviter, parce qu'on s'est dit, en fait, on montre que ça marche, quoi. Parce qu'on montre ce que ça fait une société civile sans chercheurs. C'est-à-dire sans chercheurs pour venir parler et vulgariser leurs recherches, expliquer comment le monde fonctionne, ou en tout cas participer à la compréhension du monde et de ses logiques sociales, etc. Donc, bien entendu, que ça montre que faire la grève, ça a une utilité parce que ça montre que ce serait une société où on serait encore moins financé, etc. Et puis, ça montre que les collègues
enfin quand je dis les collègues, on collectivement comprend ce que ça signifie faire la grève, c'est-à-dire c'est pas seulement ne pas aller en cours, mais continuer à faire ses recherches de son côté, etc. Non, c'est arrêter de vraiment travailler, arrêter cette prise de parole publique et donc consacrer du temps à la mobilisation. Et là, Myriam et moi, on peut témoigner que depuis le 5 décembre, on est à plein temps sur la mobilisation parce que ça prend du temps de populariser tout ça, de se joindre aussi sur les collectifs interpro, interprofessionnels, donc d'aller parler et se joindre aux travailleurs de la RATP ou de la SNCF, mais aussi aux collègues du secondaire, etc. Et donc, quand on fait ça, on ne peut pas effectivement répondre à des interviews ou continuer notre travail normalement comme si de rien n'était. Et je pense que l'année 2019-2020 sera une année dont on se souviendra longtemps sur cette mobilisation, et qu'on espère bien sûr victorieuse.
Est-ce que ça montre aussi l'utilité très concrète du travail de recherche qui est fait en France? L'utilité, j'entends, pour tout le monde, ce qui est souvent un point de critique qui pourrait être objecté par certains qui s'opposent à ce mouvement de grève, qui diraient finalement à quoi ça sert tous ces chercheurs, toute cette recherche, tout ce savoir qui n'est pas accessible à tous ou qui l'est mais sans l'être. Ça montre aussi la disparition de l'espace public, le fait de ne pas prendre la parole et de ne pas venir, comme vous disiez, expliquer le monde, aider à mieux comprendre le monde. Ça montre aussi ça, ça montre qu'en fait ce savoir, il est utile à tous.
Je pense que si on en arrivait aussi, comme un peu les revues de sciences humaines et sociales l'ont initié, à arrêter de produire tout simplement de la connaissance et à arrêter de produire cette connaissance qui quand même reste accessible, il me semble, à une grande partie de la population, dans les bibliothèques, sur les portails internet, etc. Je pense que là, on visibiliserait aussi, et on est bien parti pour, visiblement, mais à quel point, malgré tout ce qu'on en dit, les chercheurs et les enseignants-chercheurs produisent en permanence, malgré les conditions dans lesquelles ils et elles le font, que ce soit de l'enseignement, bien sûr, des diplômes, mais aussi une connaissance.
Du savoir.
Et du savoir qui tente d'être accessible à toutes et tous. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on n'en produit plus et qu'on en ferme les accès à la population ?
On est quand même, on le sait, dans une période pas spécialement réjouissante en termes de perspectives d'avenir, etc. Et la recherche a une place extrêmement importante pour arriver à trouver des débouchés à cette période-là. Et donc, que ce soit sur des questionnements qui peuvent paraître primordiaux, etc., comme le changement climatique, bien sûr la recherche médicale, etc., mais aussi il ne faut pas mettre de côté les sciences humaines et sociales qui permettent plus d'esprit critique, d'ouverture sur le monde, de compréhension de ces logiques de domination et d'inégalité. Et nous, on estime que notre rôle social, il est extrêmement important et qu'un monde sans recherche et sans chercheurs qui enseignent aux étudiants les conclusions de la recherche la plus en pointe, c'est-à-dire vraiment, ce serait catastrophique. Et je pense qu'ici, vous êtes bien placés pour le savoir, quand on sait à quel point aujourd'hui, les podcasts et ces nouveaux médias s'appuyant à l'ère du numérique, etc., valorisent et vulgarisent le compte-rendu de ces recherches. On voit à quel point il y a un écho pour ça. Parce que sinon, on n'existerait pas mutuellement ici. Et vos émissions montrent bien à quel point on est dans un aller-retour permanent entre la production de ce savoir et qui avance à vitesse grand V. Voilà, par exemple, la question des études de genre, de l'intersectionnalité ou ce genre de choses nous permettent de beaucoup mieux comprendre les logiques de domination, d'exploitation, d'inégalité et donc d'arriver à les résoudre ou espérer les résoudre et en tout cas donner des armes aux plus faible pour résoudre ces logiques-là.
Et pour ce qui est des précaires spécifiquement, sachez que le 11 février est prévue une journée nationale de grève des précaires de l'enseignement supérieur et la recherche et que par ailleurs, le mouvement de lutte des facs et des labos a un site internet universitéouvertetoutattaché.org. Merci à Marie Sonnette et à Myriam pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.